بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخنا الإسلام نورميسيون الله رب العزة qui nous a donné la possibilité de compléter un mois de saum, un mois de jeûne, un mois de prière, un mois de qiyam, un mois de istighfar, de demande de pardon, un mois de dua, d'invocation, 10 jours d'i'tikaf pour ceux qui ont été dans la retraite spirituelle d'i'tikaf, mais surtout 30 jours à la recherche de la piété, 30 jours avec des actions qui avaient pour but de nous rapprocher d'Allah et d'essayer de gravir des échelons dans l'échelle de taqwa qui est immense et qui est illimitée et qui trouve son summum de l'ihsan, ce degré de spiritualité qui est magnifique et qui est extrême, où le serviteur adore son Seigneur comme si qu'il le voyait et avec la prise de conscience, avec la conviction qu'Allah le voit. Notre objectif de ces 30 jours de privation et d'effort, entre privation et effort, c'était de se soumettre à la volonté de notre Seigneur et de lui montrer notre istislam, notre soumission à lui. Parce que le muslim, le musulman, c'est celui qui a fait vœu de istislam, de soumission à Allah Azza wa Jal. Ainsi, lorsqu'Allah te dit « ne mange pas », ben tu ne manges pas. Lorsqu'Allah te dit « ne bois pas », ben tu ne bois pas. Et lorsqu'Allah Rabbul Azza te dit « maintenant, vous pouvez consommer », le prophète m'a dit qu'Allah aime la personne qui rompt le jeûne rapidement. Au moment de la Maghrib, le Adhan de Maghrib, que la personne ne tarde pas à rompre son jeûne. C'est-à-dire que je mange quand Allah me donne l'autorisation de le faire, je m'en abstiens quand Allah me l'interdit. Et ainsi, la vie du croyant. Et ainsi, l'éducation que nous devons avoir durant ce mois béni. Lorsque nous ressortons de ce mois béni, c'est presque comme une personne qui revient du Hajj. Quel point commun? La personne qui va au Hajj, ben, il revient comme un enfant qui vient de naître. Les termes ne sont pas aussi forts pour l'après-Ramadan, mais si on cumule toutes les récompenses qui ont été promises par Allah, et lorsqu'Allah promet quelque chose, il tient sa promesse ou non? Bala, bien sûr que oui, Allah tient sa promesse. Allah nous a promis que, selon la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, que inna amal as-sa'imi mudha'af. Déjà que chaque bonne action accomplie par le jeûneur est multipliée. Combien? De quelle façon? Quelle quantité? Allah seul le sait. Mais Allah est rani, Allah est riche, Allah est karim, Allah est généreux. Généreux en bienfaits, en accord de bienfaits, généreux également en rétribution. Et tous ceux qui ont passé du temps dans les nuits de la dernière décade, et plus précisément les nuits impaires de la dernière décade à la recherche de la Laylatul Qadr, de la nuit du destin, on l'a fait pour deux choses. Premièrement, parce qu'on sait que les décisions sont prises. Et donc, on avait grandement besoin de répondre présent pour demander à Allah la santé, la protection, la stabilité de le couple pour ceux qui sont mariés, le mariage pour ceux qui veulent se marier, la vie professionnelle et tout ce qui nous importe, tout ce qui est important pour nous. Il ne fallait pas louper parce que c'était des doigts pour l'année. On l'a fait également parce qu'on a la conviction que lorsqu'Allah nous promet que Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, que la nuit du destin vaut mieux que 1000 mois, mais Allah va nous accorder cette récompense. Ainsi donc, si on remet les choses en place, on se rend compte qu'on a cumulé énormément, énormément de récompenses à l'issue de ce mois. Et donc, la multiplication des bonnes actions, ben, on a là un échantillon à travers la recherche de l'un du destin. Et on a un échantillon également, un exemple de la générosité d'Allah, lorsqu'Allah est capable, et « ala kulli shayin qadir », Allah est capable de tout, de nous accorder 1000 mois de hasanat pour uniquement une nuit passée en adoration. Et qu'Allah nous l'accorde. Allah m'a dit « anna mimman adraka laylat al-qadri fa sallahu wa qamahu iman wa ihtisaba fa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. » Amin. Qu'Allah nous accorde cette chance d'avoir été parmi ceux qui ont été présents, réveillés, lors de la nuit du destin, à se tenir debout devant lui, à faire doua, à l'invoquer, à l'implorer, et que nous ayons trouvé ces récompenses-là, plus de 1000 mois de récompenses, et que nos péchés étaient pardonnés. Ben voilà donc le point commun entre nous, le pèlerin. Nos péchés, promesses, inch'Allah, de péchés pardonnés. Allah nous a promis également qu'à chaque fois qu'on se réveillait pour le suhur, le repas du matin, wal malaikatu tusalli 'ala al-mutasahhirina wa tastaghfiru lahum. 30 suhur et 30 fois les anges étaient là présents et ils faisaient doua pour nous et ils demandaient istighfar pour nous. Les malaïka, les anges d'Allah Azza wa Jal, ont demandé pardon pour nous pendant 30 jours. Ça, Allah nous l'a accordé. On a également conviction que à chaque fois qu'on allait rompre le jeûne, on avait au moins da'awatun ma turadd, au moins une invocation qui n'était pas refusée. Donc j'ai la conviction également que j'ai eu au moins 30 du'as qui ont été exaucés et acceptés par Allah Azza wa Jal. Et enfin, ce n'est pas tout, mais parmi ce qu'on a listé, on a également la conviction que quand le prophète alayhi salat wa sallam nous a incité pour l'accomplissement de la prière derrière l'imam le soir, man sallama al-imam hatta yansarif, celui qui prie derrière l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille, c'est-à-dire jusqu'à la fin, kutiba lahu baqiyatu laylati, Allah lui accorde la nuit, le reste de la nuit en récompense. Et là aussi on a ce yaqin qu'on a fait cette année, alhamdulillah, 30 tarawih, et on a eu 30 récompenses, et on a eu la récompense de 30 nuits passées en ibadah. Même si arrivé à la maison à 21h45, on s'est couché pour se réveiller à 4h, 4h30, peu importe l'heure, mais on dormait, mais Allah nous a accordé là la récompense, l'équivalent de la nuit passée en ibadah. Tout ça, c'est là. C'est où? Pourquoi je regarde à droite? C'est pas sur le mimbar, hein? Tout ça, c'est là. Tout ça, c'est l'ange. Costaud, je peux taper dessus, hein? Tout ça, c'est l'ange qui a écrit. L'ange du côté droit, qui a inscrit les bonnes actions. Tout ça a été inscrit. Et même si j'ai oublié, si je demande à notre frère Nabil, rappelle-moi quelle bonne action tu as accomplie lors du mois de Ramadan 2008. Personne ne s'en souvient. Qui s'en souvient? Qui va écrire dans un agenda, j'ai prié 12 rakat, j'ai lu 2 juz de Coran, j'ai fait doua 15 minutes. Personne ne le fait. Nous on a fait, mais idhnillah, on a accompli, mais on a oublié aussi. Mais Allah n'a pas oublié. Parce que ces malaïka là, ces malaïka, lorsqu'ils écrivent, ça ne part pas ça. Et on a espoir de retrouver tout ça, le jour de Qiyam. Et c'est ça la vie du croyant, Inch'Allah. C'est ça la vie du croyant. Tu accomplis, pour qui? Pour Allah. Et ça s'appelle ikhlas. Et quand tu accomplis, tu as cette conviction, ihtisab al-ajr, que tout ce que j'ai fait là, ben Allah va me donner dans l'au-delà. Même si de ce dunya, les gens ne sont pas reconnaissants, mais on n'a pas besoin de la reconnaissance des gens. Je donne un exemple, on sort du cadre du Ramadan, je suis venu en aide à un frère, je l'ai aidé financièrement ou moralement, psychologiquement, ou je l'ai aidé dans un déménagement, peu importe, n'importe quel cas de figure. Mais le travail accompli, je trouve que le frère, ben, il prend son envol, il trace le chemin et il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de reconnaissance. Tu attendais quoi? Qu'il t'invite au restaurant et qu'il fait un reportage sur toi et tout. C'est quoi le but? Le but, c'est que tu as aidé quelqu'un, ça c'est pour Allah. Et le meilleur investissement, c'est quand tu aides quelqu'un en secret. En secret. Parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour de Qiyama, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Un homme qui a donné l'aumône avec une telle sincérité que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Pas fait à tapage, on a fait ça, on a fait ci et tout et tout. Il y a des fois, il faut mettre en avant pour une hikma, pour une sagesse d'ordre général. Ça peut être une da'wa pour tout le monde. Mais la meilleure aumône, c'est celle qui est faite de façon discrète. Parce que ce sera pour Allah. Ainsi, subhanallah, quand on accomplit une bonne action, ben on est persuadé qu'Allah nous en rétribuera. Et on n'a pas besoin de voir les résultats de ce monde. Tant je n'ai pas besoin des remerciements du frère, et que même s'il me tourne le dos, il va faire autre chose, ben je ne dois pas être affecté. Pareil, quand j'ai fait plein de bonnes choses, même si je ne vois pas un changement radical dans ma vie, j'ai fait doua pendant un mois pour avoir un emploi, pendant un mois pour me marier avec cette fille-là qui s'appelle Fatima ou Aïcha ou peu importe. J'ai fait telle invocation. Le fait que je ne vois pas la concrétisation de ces doua tout de suite, ben, ça ne doit pas faire de moi quelqu'un d'insatisfait. Pourquoi Allah ne m'a pas donné? Sache que Allah est sage.
Excusez-moi, il y a un peu de taille à risque qui gêne l'entrée du garage avant, s'il vous plaît.
Jazakallah khair. On disait que quand j'accomplis ces bonnes actions, et particulièrement les doigts, je sais qu'Allah me donnera toujours ce qui est le meilleur pour moi. Parce qu'Allah est latif. Latif, c'est la bienveillance d'Allah. Allah t'accorde parce qu'il sait qu'il y a un bien. Allah ne te l'accorde pas parce qu'il sait que le bien pour toi, il est ailleurs. Ainsi donc, le ihtisab ou le hajj, c'est ça la vie du croyant. Il le fait avec sincérité. Il attend les récompenses auprès d'Allah. Mais surtout, le croyant intelligent, c'est celui qui ne lâche jamais. Il accomplit les bonnes actions et il sait que dans l'islam, il n'y a pas de limite dans le temps. Et quand il y a des limites, là, c'est clairement défini dans le Coran. Ayyam ma'doudat. Des jours fixes. Pour le jeûne, Allah parle de jours fixes. Pour le hajj, Allah parle de jours fixes. Parce que le ramadan commence à la vision de la lune et se termine à la vision de la lune. Le hajj, ça commence telle date, ça se termine telle date. Après telle date, une personne ne peut pas dire il va taper shaitan, il va à Arafat, en dehors. Ça n'a pas de sens. De même, si aujourd'hui on dit, allez, on se lève, on va faire ça tout à l'heure, ça n'existe pas. Le mudda est terminé. Ça, c'est des actions qui sont limitées dans le temps. Mais au-delà des actions qui sont limitées dans le temps, il y a le rapport du croyant avec son Seigneur. La soumission du croyant avec son Seigneur. Et c'est ça qu'on a essayé de travailler durant ce mois. Et ça, il n'y a pas de limite. C'est hatta ya'tiyakal yaqin. Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que Malik al-Maud vienne reprendre notre âme. Là, c'est terminé. Là, on retrouve notre Seigneur. Vous savez, les personnes les plus heureuses, ce sont ces croyants qui quittent ce dunya. Les plus malheureuses, ce sont ceux qui sont autour du lit, de l'hôpital ou de l'endroit où la personne est décédée et qui pleurent. Parce que un tel est parti, mon grand-père, ma grand-mère, mes parents, un proche, nous on pleure, mais la personne, le mu'min, celui qui a donné sa vie pour Allah, qui était assidu de ses prières et ses actions d'une façon générale en restant éloigné des péchés, lui il a déjà eu une nouvelle que toi tu n'as pas eue. Toi tu rêves d'entendre ça, lui il l'a entendu. C'est quoi la nouvelle ? Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Les annonces de bonnes nouvelles des malaïkas qui t'annoncent clairement qu'Allah est satisfait de toi. Retourne auprès de ton Seigneur. Ce que le défunt, ce qui va mourir, ce qu'il a déjà entendu pour lui, c'est khalas, ma ihtaj, c'est suffisant. Et il n'a besoin à cet instant de rien, il n'a même plus besoin de toi. Toi, tu es en train de pleurer, verser des larmes, ce qui est humain, mais le défunt, il est en train, son âme est en train de monter avec les malaïkas. Et il obtient l'autorisation de franchir chaque ciel jusqu'à se retrouver auprès d'Allah Azza wa Jal et que l'âme est retournée dans des endroits de bénédiction. Ça, c'est le croyant le plus heureux. C'est celui qui quitte ce dunya avec la satisfaction d'Allah parce qu'il a consacré l'essentiel de sa vie à l'adoration d'Allah. Là, à cet instant, lorsqu'on est là le 3 Shawwal, on a le 3 Shawwal pour l'île de la Réunion. On a besoin d'une réaction de croyant intelligent. Et le croyant intelligent, c'est celui qui a grandi spirituellement durant ce mois. Ce n'est pas celui qui était Moussafir, qui était de passage, qui a passé 30 jours en notre compagnie et qui ensuite s'en va. Cette personne-là, malheureusement, elle aura, Inch'Allah, obtenu beaucoup de bonnes choses. Mais ces bonnes choses-là, il n'y a aucune garantie que cette lumière perdure et que ces hasanat reste de son livret de compte. Ça, on n'a aucune garantie. Personne ne peut avoir la garantie que les actions que j'accomplis, c'est sûr que je vais les voir au jour de Qiyamah. Nous, on a dit tout à l'heure, ton ramadan de 2008, c'est inscrit par les anges et Allah ne l'oublie pas parce que c'est écrit. Oui, à condition que tu ne loupes pas l'étape qui vient après les bonnes actions. C'est la protection. Il faut que tu vas blinder cette bonne action. Tu dois mettre une protection. Un gilet pare-balles ou une vitre, je ne sais pas combien de centimètres d'épaisseur, fait en sorte que ces actions-là, tu ne les donnes pas aux gens. On a eu l'occasion d'expliquer ça à Yom al-Jum'a, la veille du Eid. Attention, mais bon, la parenthèse est fermée parce que c'est terminé. Attention à ces repas du Eid. Ces repas du Eid où on se retrouve en famille et que très souvent ça dérape. Ça dérape en quoi? En riba, en bohtan, en amima, en médisance, en calomnie, en le fait de colporter des nouvelles. C'est comme si que, et là on voit toute la bêtise humaine et l'incohérence du pécheur, que durant tout le mois, il a contrôlé sa langue. Non, 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 Ramadan, pas de ribat. Ramadan, on ne parle pas sur les gens. Mais c'est comme si que lorsqu'on a vu la lune de Shawwal, c'est fini. Les portes sont ouvertes et ce qui était interdit redevient licite. Non, ce qui était interdit redevient licite, c'est manger, boire le matin, le midi, le soir et quand tu veux. Mais ce qui est haram avant le mois de Ramadan et pour lesquels tu donnais une importance capitale parce que tu savais que ton jeûne en dépendait, ça ne devient pas licite après le mois béni. Tu as l'impression quoi que voilà, j'ai fait mes jeûnes, maintenant si je retourne à mes mauvaises habitudes, le jeûne il est monté, il est protégé. Mais attention, Arif, là, les bonnes actions, peuvent être, les récompenses sont multipliées, certes, mais les bonnes actions peuvent être distribuées et perdues totalement aussi. Si on a atteint, si on a porté atteinte au droit des autres. Avant de venir sur ce point essentiel qui est al-muhafaza, qui est la protection des bonnes œuvres, on avait juste besoin de conclure avec deux annonces de bonnes nouvelles encore par rapport à tout ce qu'on a dit, les récompenses qu'Allah nous a promis pour les actions qu'on a accomplies. Et il y a, en termes de targhib, de bonnes nouvelles, deux annonces de bonnes nouvelles concernant le qiyam. Les savants disent que pour le jeûne, il n'y a pas cité dans les hadiths de récompenses précises. Pour qu'on retienne bien le hadith général, de lequel, hadith Qudsi, de lequel Allah Rabbul Izza, lorsqu'il parle du jeûne, il dit que wa ana ajzi bihi, que c'est moi qui en rétribue. Allah a pris la garantie de récompenser le croyant pour ses jeûnes du Ramadan lui-même. Au jour de Qiyamah, preuve que ça va être une récompense qui est énorme et qui n'est même pas détaillée, qui n'est même pas expliquée dans les textes. Donc ça remplit nos cœurs d'espoir. Et deuxièmement, ce qui remplit nos cœurs d'espoir, et cet espoir-là doit rester en nous, c'est quand le prophète alayhi salat wa salam nous dit que parmi les... Il y a combien de portes de le paradis ? Paradis. 8. Les portes de l'enfer sont au nombre de 7 qu'Allah nous protège. Parmi les 8 portes du paradis, il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan. Et c'est spécifique, c'est khas aux jeûneurs. Mais quand j'entends qu'il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan, j'ai espoir que si durant toute ma vie, j'ai bien accompli mes 30 jeûnes du Ramadan avec tahsin al-sawm, accompli de façon correcte. Et qu'en plus de ça, Inch'Allah, j'ai cette qualité en moi, cette qualité. Nous avons tous des défauts, ça c'est clair. Mais nous avons également des actions dans lesquelles nous pouvons exceller. Il y a des actions dans lesquelles chaque croyant, il trouve une certaine marge de progression. Et dans d'autres, beaucoup moins. Il y en a qui vont progresser dans le Coran. Allah leur a accordé ça. La possibilité de lire, de mémoriser et d'étudier. Ça sera leur, on va dire, leur tremplin. Il y en a d'autres, c'est dans la prière. Des gens qui, je connais des gens, et j'ai été, Allah me pardonne de dire ça, j'ai été agréablement surpris, parce qu'il ne faut pas avoir une idée négative des gens, mais j'ai découvert que certaines personnes, toute l'année, c'est 4 heures du matin debout, toute l'année. Ramadan en dehors de Ramadan. C'est parfois des gens que, comme on dit, on n'a pas l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui ressort. Mais ça, c'est du regard de l'être humain. Mais maintenant, ce qu'il y a dans son cœur, Allah seul le sait. Et il y a des gens comme ça que le tremplin vers Allah, ce sera certainement la prière de la nuit. Le qiyam ul-layl, le tahajjud. Il y en a d'autres, c'est le mon. Il aide. N'importe quel projet, investissement, quelqu'un a difficulté, quelqu'un est endetté, ainsi de suite, discrètement. La personne va lui dire, t'as besoin de quoi? Voilà, on va t'aider. T'as besoin de matériel, t'as besoin de pierre artificielle, ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel, t'as besoin d'un coup de main. Il y a des gens qui vont peut-être accéder au Jannah parce qu'ils ont beaucoup aidé les gens. Ils ont été proches des gens. C'est-à-dire, chacun leur a accordé une particularité et une action dans laquelle il y a une marge de progression. De ce sera le dhikrullah. Une force, une capacité de le dhikrullah du matin au soir, mais un dhikrullah qui lui permet de baisser le regard, de rester éloigné des paroles vaines et futiles, c'est la solution au compte de la médisance, et ainsi de suite. Il y en a d'autres, ce sera le saum. C'est ce croyant qui excelle dans ses 30 jeûnes chaque mois. C'est top ça, hein, chaque mois. Là, c'est du haut niveau. Hein, qui excelle dans ses jeûnes 30 jours par an. Et qui ensuite, mashallah, est régulier. Il n'a pas raté une seule fois les 6 shawal de toute sa vie. Depuis qu'il est balig jusqu'à la mort. 6 shawal, c'était son rendez-vous annuel. Il n'a jamais raté les jeûnes de la première des 4 du mois de Dhul-Hijjah. Enfin, les 9 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Il ne rate jamais ses jeûnes du lundi et du jeudi. Et du 13, 14, 15 de chaque mois. Ça, c'est des personnes qui auront comme tremplin spirituel, Inch'Allah, le jeûne. Mais lorsque j'entends qu'il y a une porte spécifique au jeûne et que je sais pertinemment, je sais que j'ai fait beaucoup de bonnes choses durant ce mois bi'idhnillah et que j'ai bien avancé par l'intermédiaire du jeûne, ça fait naître en moi l'espoir. Je veux être ce jeûneur qui accède au Jannah par rapport à cette bonne action. Voilà donc deux bonnes nouvelles. Le fait qu'Allah a promis de rétribuer lui-même sans donner de détails ni d'indication sur tel genre de récompense, ça veut bien dire que c'est une récompense qui est propre à Allah. Vous savez pourquoi les savants disent? Parce que le jeûne, c'est l'action où il y a le plus d'ikhlas, de sincérité. Et Allah aime la sincérité. C'est l'action où il y a le plus de patience. Et « Inna Allah ma'as sabirin ». Et « Wallahu yuhibbu sabirin ». Allah aime les patients et Allah est avec les gens qui sont patients. C'est pour toutes ces raisons que le jeûne est une action qui est aimée par Allah et qu'il en a garanti la rétribution. C'est-à-dire que c'est comme si on vous a dit, il y aura une superbe récompense pour toi. Un beau cadeau, je ne te dis pas quoi. Il y a une petite fille à la madrasa, je ne sais pas si le papa est là. Non, on l'appelle chauffeur, tout le monde le connaît. Une petite fille, elle a 9 ans, mais t'es pas reine. Hein? 9 ans, elle a jeûné, c'est 30 jours. 9 ans, elle est petite comme ça, maigre comme ça. Elle est maigre, c'est pas que son papa ne donne pas les manger. Hein? Elle est petite qualité, comme il dit. Elle a jeûné, c'est 30. Moi, je suis admiratif, 9 ans. Salatin yom. Et je lui ai dit que, vers le 21, je lui ai dit que si tu complètes tes 30, je vais te donner un beau cadeau. La lumière de ses yeux. Elle sait qu'elle aurait un beau cadeau, mais je ne lui ai pas dit quoi. Et elle aura, effectivement, on a prévu d'acheter, effectivement, pour lui remettre. Je veux dire que c'est un peu comme nous, quoi. Quand Allah te dit, wa ana ajzibi, comparaison décalée, hein. C'est un être humain qui dit un autre insan, je vais te donner quelque chose de beau. Et quand je dis un beau cadeau, ce sera quelque chose de valeur. C'est pas un petit truc, un petit bracelet de 2 euros, 3 euros, non. Donc, il y a ce raja, cet espoir. Et je vois l'élève à chaque fois qu'elle me voit. Elle sait que, ben, quand est-ce que le directeur va lui donner? C'est peut-être demain, c'est peut-être après-demain, ainsi de suite. Mais effectivement, elle aura. Et plus peut-être que ce qu'elle le pensait. Mais ayons cette attente d'enfant avec les yeux remplis de lumière et le cœur rempli d'espoir, que ce qu'Allah va nous accorder là-haut, ce sera quelque chose d'énorme, à condition de protéger ses acquis. Ne pas les dilapider, ne pas les distribuer aux gens, et on va voir dans un deuxième temps quels seraient les pires des choses à faire, qu'Allah nous protège. Juste avant de passer à ce point, 5 leçons de spiritualité maintenant. Là, on a vu quelle action on a accumulée, quelle récompense normalement on va obtenir. Et Inch'Allah, on a espoir. Maintenant, quels sont les changements qui se sont opérés en nous, consciemment ou inconsciemment? Là, il y a ce thèse qu'il y a, cette purification intérieure qu'il y a dans le jeûne. Il y a eu un effet sur notre cœur, sur le cœur de chacun d'entre nous. Premièrement, on a appris à contrôler notre nafs. Oui ou non? Le nafs, c'est le désir qui monte. Il te demande de faire quelque chose. C'est tout ce qui passe par ton cœur et tu as envie de faire quelque chose. Ben, on a fait passer notre nafs de quelle façon? Quand on a faim, on ne mange pas. Quand on a soif, on ne mange pas. C'est comme on dit, une expression un peu en créole, on a écrasé notre nafs. On a eu le sayyatara, on a eu le dessus sur le nafs. Et ça, c'est une avancée énorme. C'est que théoriquement, le nafs, l'ego, tant que tu le nourris, dans le sens propre et figuré, ben, il prend de l'ampleur. Si tu l'as écouté une fois pour un péché, c'est parti. Là, quand on sort du mois béni, par exemple, on a eu l'habitude pendant 30 jours de contrôler le regard. Oui ou non? Dis oui, hein? Tout le monde. Ben, après le mois béni, on aura une première flèche de Shaitan. Shaitan, il est là-haut, là, il envoie, c'est l'archer. Là, il dit tous les archers, comment il dit ça quand il donne l'ordre? Lancez les flèches. Et là, il y aura les plus belles filles au monde qui vont passer. Je dis, c'est pas vrai, c'est le concours Miss je sais pas quoi qui passe devant moi, ainsi de suite. Tout ça, c'est des ubtila, des épreuves. Sache que si tu as nourri ton nafs une fois, tu vas le nourrir 2 fois et puis c'est bon. Il redeviendra un nafs obèse qui ne mange pas 5 fruits, 5 légumes par jour. Si tu as commencé, si on a baissé la garde, on a commencé à regarder ce qui est haram, c'est dans les deux sens, hein, pour les garçons et les filles, ainsi de suite. C'est dans les deux sens. On lisait un article sur un site internet très connu où on montrait comment les footballeurs iraniens étaient séduisants comme des mannequins. Ben, si une femme regarde et dit que waouh, effectivement, ils sont beaux, ça, c'est également un péché. De la même façon que si le frère regarde telle élection de Miss, je ne sais pas quel pays, quelle contrée, et qu'il trouve, ah, effectivement, elle est jolie, c'est un péché. C'est dans les deux sens. Et pareil, dit aux croyants et dit aux croyantes pour le fait de baisser le regard. Je fais la parenthèse. Ainsi donc, le nafs, il grandit de cette façon et il faiblit de cette façon. Tu le prives, il s'affaiblit. Et là, au bout de 30 jours, notre nafs, il est au niveau le plus bas de toute l'année. À nous de voir, est-ce que on garde ces pulsions là-bas? Ou alors on va le nourrir, on va lui donner ce qu'il aime et il reprendra le dessus jusqu'à nous dicter notre mode de vie. Donc on a cet acquis-là, à nous de le protéger. À chaque fois qu'il y a une tentation de péché par rapport au regard, par rapport à ce qu'on écoute ou on n'écoute pas, par rapport aux paroles, il y a des fois où si tu as envie de faire un commentaire sur quelqu'un, envie de dire une petite parole qui ferait rire tout le monde, mais c'est une riba, ce serait la médisance, contrôle-toi. Parce que tu as su le faire et tu as pu le faire, garde cette bonne habitude. Deuxièmement, on a éduqué notre corps physiquement. On a éduqué notre corps à faire le ibadah. On lui a demandé de tenir ferme 5 salats en jama'a. Présence, qiyamul layl, présence, tahajjud. Tenir 20 raka'a de tarawih debout. On a éduqué notre corps dans l'accomplissement des bonnes actions. C'est-à-dire qu'on a là cette spirale, cette force. On a créé un automatisme, le corps humain. L'être humain a besoin de temps pour s'habituer. Il ne faut surtout pas maintenant ralentir le rythme. Si on a eu cette possibilité de faire tout le tahajjud durant ce mois, sans rater un soir, ce n'est pas le moment de lâcher prise. Parce que si tu te dis que je pose une semaine ou 10 jours, c'est fini, yari. C'est terminé. Oublie tahajjud. Tu referas dans 1 an. Mais si dès le lendemain de Eid, j'espère qu'il n'est pas trop tard, on n'a passé que 2 nuits, si dès le lendemain ou immédiatement après tu dis que j'étais capable quand même de me réveiller à 4h moins de 4 tous les jours, 4h. Là, pas besoin de l'aide depuis 4h, il n'y a pas de suhur forcément. Si la limite de subh sadiq c'est 5h33, je me lève 5h15. Je fais mes ablutions, raka'atayn, 2 raka'at de tahajjud. Ne perdons pas cette bonne habitude. Parce qu'on l'a acquis, c'est en nous ça. Il ne faut pas le perdre, ce serait dommage. Et à l'occasion, on aura là la possibilité d'expliquer quelles sont les lumières qu'on obtient lorsqu'on est assidu à la prière de la nuit. Deux. Troisième chose, qu'est-ce qu'on a obtenu également? On a appris à se contrôler. Contrôler nos états d'âme, nos émotions. Et je veux surtout dire, contrôler notre colère. On connaît tous le hadith concernant la colère. Le frère nous rappelle, dans le mois quand on est en état de jeûne. Bon, ça me dit que فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Quand on est en état de jeûne, si quelqu'un vous insulte, si quelqu'un vous dit quelque chose de déplacé, la personne ne doit surtout pas répondre et dire « Je suis jeûneur, أَنَا صَائِمٌ ». Quitte à le répéter 3 fois pour que la personne réalise que là, je suis en état de jeûne, ce n'est pas le moment de jurer. Ce n'est pas le moment de dire des choses mauvaises. Ce n'est pas le moment de s'énerver, de se mettre en colère, encore moins de se bagarrer. Ben, on a eu ce saïtara. On a eu la possibilité de contrôler notre colère pendant 1 mois. Même si il y a eu des choses qui nous ont déplu. Par exemple, les enfants, ils viennent, ils ont renversé notre satini tomate, notre roguette tomate. C'est grave, ça, non? Tu vas manger de ça, mon ça sec comme ça. Ou alors, madame a mis la soupe au feu et ça a brûlé. Et nous, on n'aime pas le goût brûlé. Dis non, Ramadan Karim. On apprend à se contrôler. Ça va, c'est pas grave, on va pas mourir pour ça, même si dedans c'est déjà mort. Mais, sobre. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose. Dans le travail, un collègue qui a mal fait le boulot, ou des détails, hein, d'accord? Mais on se contrôle, dis non, Ramadan, on se met pas en colère. Tu as tenu 1 mois, akhi. Ça veut bien dire que tu es pas une bête humaine. Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui disent que non, moi, m'y guéris pas tenir. Quand il y a quelqu'un qui vous dit, m'y dit. Quand il y a un problème, moi, m'y cause, moi, m'y rentre dans le tas. Ben, tu t'es rendu compte que non, c'est pas ta nature, ça. Pendant 30 jours, tu as réussi à avoir un autre comportement. So, donc, ça veut dire quoi? You can do it. Comme ça, il dit, non? Ou alors, just do it. Tu l'as fait. Mais continue à le faire. Reste cet homme qui se contrôle. Reste cet homme qui n'exprime pas verbalement sa colère. Reste cet homme qui ne va pas dire des choses désobligeantes à son épouse, qui ne va pas insulter. Et de cette façon, ça t'évitera de dire des choses pour lesquelles certaines personnes regrettent amèrement de nos jours. Divorce ou insulte ou malédiction contre les enfants parce qu'il a fait telle bêtise ou ainsi de suite. Ou des échanges de coups, ou alors des fois où on s'est énervé, et puis ça, on ne peut plus revenir là-dessus des fois, d'accord? Donc, cette capacité, on l'a en nous là, à cet instant, on était capable de contrôler, de manger, d'éteindre le feu de la colère pendant 30 jours. Faisons en sorte de ne pas l'allumer de nouveau. Gardons cette bonne habitude, ça fait 3 acquis, 3 thèses qu'il y a intérieures. Quatrièmement, on a développé le sens profond du muraqabatullah, et à mon humble avis, c'est une des leçons les plus fortes du mois béni. Muraqabatullah, c'est la pensée permanente d'Allah, c'est la conviction qu'Allah te voit, t'entend. Ça, on l'a développé, mais au summum, au maximum, durant le mois béni. De quelle façon? L'exemple est très, très simple, très clair. Il ne passerait jamais par la tête d'une personne durant le mois béni de s'enfermer à clé dans une pièce, d'éteindre la lumière et de manger son sandwich bouchon et boire son portillo. Il dit que là, j'éteins les lumières, personne ne me voit. Non. Ce n'est pas possible parce que il sait pertinemment que même s'il éteint les lumières, personne ne le voit. Qui c'est qui le voit? Allah le voit. Allah connaît. Et quand il va rompre son jeûne le soir, il va manger son samoussa, il dit, le carême était dur aujourd'hui. Il sait pertinemment que ce sera un mensonge. Et que même si autour de toi, personne ne sait, Allah sait que tu as menti. C'est-à-dire que même un enfant, testé, même un enfant, il ne va pas boire de l'eau en cachette. C'est faux ça. Parce qu'il sait que c'est important. Il a fait la promesse, il a besoin de se prouver à lui-même qu'il peut tenir, mais il sait que s'il le fait, Allah voit. D'accord? Comme l'exemple très très basique aussi d'un professeur qui avait dit à trois élèves, ou un groupe d'élèves, peu importe, que chacun coupe un poulet à un endroit où personne ne le voit. Il y a un qui est parti tel endroit, il y a un qui est parti se cacher, bref, l'histoire est connue ça. Il y a un qui a ramené le poulet vivant. Le prophète dit, le poulet vivant. Les autres, les poulets étaient morts. Et il a dit que c'est lui qui a réussi l'épreuve. Parce que le test, c'était que vous compreniez qu'il n'y a pas un endroit où personne ne vous voit. Allah vous verra toujours. Que vous ayez dans la forêt, vous cachez tel endroit, bref. C'est une petite histoire, une petite anecdote. Cette prise de conscience qu'Allah nous voit, ça, on l'a développée durant le mois béni. Jamais une personne ne se serait dit que je ne vais pas fajr aujourd'hui dans le mois de Ramadan. Il sait qu'Allah attend quelque chose de lui. Allah voit et connaît son intérieur. S'il est paresseux ou autre chose, il fait preuve de kassel. Personne ne l'aurait fait. Gardez ce tarbiya, ce tazkiya, cet état d'âme, cette prise de conscience qu'Allah nous voit. Et de cette façon, à n'importe quel moment où c'est l'heure de venir à la prière, ne jamais se dire que plus tard je ferai, ou là il n'y a pas nécessité. C'est le même Allah, c'est le même Seigneur qui nous observe durant le mois béni et qui nous observe durant les 11 autres mois de l'année. C'est-à-dire le gros avantage de Ramadan, c'est qu'on n'a pas réfléchi à tous ces points-là quand on a commencé le jeûne. Mais ce sont des acquis qu'on va développer, c'est-à-dire des choses qu'on va acquérir. Automatiquement, ça vient avec le jeûne. Et là, on a le pouvoir est en toi. Garde-le. On a ces forces-là en nous. On doit absolument les garder et les protéger et les fructifier. Cinquième point, on a appris durant ce mois à aimer le Coran. Il n'y a pas un mois de l'année où on lit autant le Coran que durant le mois de Ramadan. Oui ou non? Ça, c'est très clair. Cet amour pour le livre d'Allah ne doit pas se limiter au mois béni. N'oublions pas que le prophète alayhi salat wa sallam dit que le jeûne, le carême, le Ramadan, le jeûne et le Coran yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyam vont intercéder pour le serviteur le jour de qiyam. Mais le Coran intercède pour celui qui le lit tout le temps, qui a le cœur attaché. C'est pas limité dans 29 jours ou 30 jours de l'année. Et dernier point, on pourrait dire, ça c'était une option, on a appris à faire preuve de générosité, d'entraide. Chaque fois qu'on avait besoin de nous, contribution financière ou autre, on répondait présent. Nombre de personnes dans cette masjid qui se sont investies pour mettre les couverts, pour servir le repas de rupture du jeûne, pour desservir. Tout le monde essayait de donner un coup de main, même si on n'était pas de l'équipe officiellement, mais quand on peut prendre un plateau, porter, amener la barre, replier les plastiques, et ainsi de suite, on le faisait. C'est-à-dire, et au-delà de ça, si on savait qu'on peut aider une personne, lui donner un repas, ainsi de suite, on savait que c'était source de récompense. Le but du Ramadan, c'est également de nous apprendre à être plus proches entre nous et de créer la solidarité et l'entraide. Essayons, Inch'Allah, de garder ces qualités. C'est pas que uniquement de mois de Ramadan, je cherche les gens qui sont dans la difficulté pour les aider. Ça doit être une réaction du croyant durant toute l'année. Maintenant, puis on va conclure encore 5 minutes, il y a deux catégories de personnes qui sortent de ce mois béni. Comme nous là, de le mois de Shawwal à cet instant. Et c'est maintenant qu'il faut rattraper. C'est maintenant qu'il faut maintenir et rattraper le coup, parce qu'après c'est trop tard. Si on a pris la pente au-delà de 7, 8, 9, 10 Shawwal, on peut rarement remonter cette pente. Parce que là, on a grimpé au sommet de la foi. Si on se laisse aller, c'est parti. C'est comme si on va descendre un grand toboggan de 330 jours lunaires, et après, arrivé en bas, on va essayer de regrimper l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on n'aura pas vraiment progressé dans notre vie de façon constante. Il y a la personne qui a fait l'intention ferme, qui a déjà pris ses résolutions. Et on ne peut pas le dire en public, mais chacun doit avoir déjà pris des résolutions. Après le mois béni, il y a une personne qui doit se dire, par exemple, moi mon niyat à partir de ce mois de Ramadan, c'est mes 5 salats à la masjid. Sauf quand je suis au travail, mais quand je ne suis pas au travail, ne pas rater une salat à la masjid, ça c'est ma priorité. Une autre personne qui a atteint un degré un peu plus fort, va dire que moi ma priorité c'est le premier rang. Chaque salat à la masjid, ça doit être au premier saf. C'est-à-dire que si la prière, par exemple, Isha, est 19h30. Si j'ai l'habitude de quitter chez moi à 19h15, 19h20, et j'arrive là, tout juste 28, je fais mes ablutions, je commence à prier à 19h31, l'imam a déjà commencé à lire, ben, mon niyat, c'est de quitter chez moi 5 minutes plus tôt, pour être présent au premier saf. C'est-à-dire que chacun doit, à cet instant, prendre des résolutions qu'on a déjà commencé à appliquer et demander à Allah de nous aider. Ça, c'est concernant les bonnes actions, mais également concernant les péchés. À nous de voir quels sont les péchés qu'on essaie d'éradiquer totalement de notre vie. Si une personne dit que maintenant, le regard, je vais le contrôler, Inch'Allah, le maximum d'efforts, mais ça, ça fait partie des résolutions qui vont nous être très profitables. Parce que, au-delà de l'accomplissement des bonnes actions, dans le mois béni, c'est un point qu'on n'a pas développé, ça aurait été un peu long. Allah Rabbul Izza aime le jeûneur qui s'éloigne d'un interdit. Parce que ça, c'est la réaction du croyant, de façon générale, et ça, ça découle du sens de la soumission du islam. Man taraka shay'an lillah. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah. Awadahu Allahu khayran minhu. Allah lui accorde quelque chose de mieux. Chaque fois que tu as contrôlé ta langue, chaque fois que tu as baissé le regard, et ainsi de suite, Allah t'accorde une lumière. Et cette lumière-là, ça te permet de trouver, Inch'Allah, plus de concentration et de dévotion dans les bonnes œuvres. Les savants commencent ce hadith par d'autres, disent que c'est la halawatul iman. Allah t'accorde un peu plus de douceur de la foi. Ainsi, faisons ces intentions de contrôler au maximum notre regard, de contrôler au maximum nos oreilles, ce que nous allons écouter. Si quelqu'un était habitué à écouter certaines choses qui ne sont pas correctes avant le mois béni, et que durant ce mois, le Walkman, le MP4, ou ainsi de suite, il était rangé dans le tiroir, ne redémarrons pas les péchés, essayons de rester dans cette spirale de bonnes actions et d'éloignement de péchés. Donc il y a cette catégorie de personnes, et à eux, la bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles, que un signe d'acceptation des bonnes actions, c'est al-hasanatu ba'daha. C'est quand Allah te donne la possibilité de refaire encore d'autres bonnes actions. C'est quand une personne revient du hajj, si on voit qu'il y a un changement clair dans sa vie, ben ça veut dire que ce hajj-là a été accepté par Allah. Mais si la personne retourne comme avant, Allah seul le sait. Pareil pour le mois béni, s'il y a un changement réel de notre vie, ben ça veut dire que ce mois-là a été agréé, accepté par Allah. Il n'y a pas plus bonne nouvelle pour un croyant que de savoir que ses actions ont été agréées, acceptées par Allah. Allahumma ja'alna minhum. Et deuxième chose, celui qui reste ferme dans ses bonnes actions, ce qu'on appelle, comment ça s'appelle en arabe, le istiqama, la fermeté, sachez qu'Allah Azza wa Jal nous a informé par le Prophète que ahabbul a'mal ila Allahi adwa muhawain qalla, même si c'est peu. Les actions les plus aimées par Allah sont celles qui sont accomplies de façon régulière et permanente, même si c'est très peu. C'est-à-dire que si tu restes ferme sur ton tahajjud, tes deux raka'at tous les soirs, ben, sache que cette action-là, elle est aimée par Allah. Il n'y a rien de plus gratifiant que de savoir que tes actions sont aimées par ton Seigneur. Ça veut dire que si c'est aimé par Allah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ostentation dedans. Si c'est aimé par Allah, ça veut dire qu'il y a la sincérité, et c'est pour ça qu'Allah a accepté et a aimé. Donc, c'est deux bonnes nouvelles pour la personne qui reste ferme. Après, il y a la personne qui malheureusement pense que maintenant on retourne à une vie ordinaire. Et c'est un discours, on a eu l'occasion de citer ça une fois, c'est un discours qu'on entend parfois de la bouche des gens, de mois de Ramadan, des gens qui disent clairement qu'on a toujours appris, comme ça, que c'est un mois pour Allah et 11 mois pour nous. Quelle injustice de le taqsim! Quelle injustice de la répartition des jours! Allah qui te donne la vie, qui te donne la santé. Est-ce qu'Allah a décidé que la santé, tu es en bonne santé 1 mois et malade 11 mois? Est-ce que quelqu'un aurait pu accepter ça? Aurait pu vivre? Ça aurait été difficile. Allah t'accorde les bienfaits toute l'année, toute ta vie. Comment est-ce qu'une personne peut dire que 1 mois, c'est à fond pour Allah et 11 mois, je me retire, je retourne dans mon dunya? Ça, ce n'est pas la conception, ça, ce n'est pas l'approche, ce n'est pas la vision du croyant. Le mu'min, c'est celui qui a une vision, un engagement, un sa'i, qui le mènera sur le sirat al-mustaqim jusqu'à obtenir l'agrément d'Allah. Ben cette personne-là, le grand danger, c'est que comme il n'y a pas de bonne intention de istiqama, il y aura une perte de vigilance par rapport au péché. Et on craint que la personne, en plus des péchés du quotidien, que la personne risque d'accomplir les péchés qui détruisent les bonnes actions et qui vont déraciner ce qu'il a pu cumuler comme bonnes œuvres durant un mois. Je ne vais pas être long. Je vais juste vous citer les péchés destructeurs. Ce n'est pas Sab'al Moubiqat. Ce n'est pas les péchés qui sont assimilés au shirk. On va dire les péchés malheureusement du quotidien et qui sont lourds en conséquence, pas par rapport aux péchés qui sont greffés, non. Mais par rapport aux bonnes actions qui sont enlevées. Et ça, c'est très grave. Premier de ces péchés, c'est Al-Hassad, la jalousie. Personne ne dit à la jalousie, je ne contrôle pas la jalousie. Si, tu peux contrôler la jalousie. La jalousie fait partie des péchés du cœur. Il faut travailler ce cœur, il faut faire preuve de qana'a, de satisfaction, ce qu'Allah nous a donné. Il faut travailler le iman, la foi sur le destin, et plein de points encore à développer, parce que le prophète m'a dit que inna al-hasada, que la jalousie détruit, consume les bonnes actions, comme le feu consume le bois sec. Mettez des brindilles dans du charbon ardent, en quelques secondes, il n'y a plus rien. Ben, gardez cette image, ces métaphores-là sont puissantes, c'est exactement ça. Les bonnes actions que tu as accumulées, il suffit que tu regardes le frère qui a un bienfait que tu n'as pas, et que tu l'envies, et que dans ton cœur, il y a une tristesse, parce que lui, il l'a, et moi, je ne l'ai pas, c'est ce qu'on appelle al-hasad, et c'est grave. Et dans le Coran, il y a un verset qui parle de la protection contre les jaloux. « Amin shari hasidin idha hasada idha hasad » contre le mal, le méfait qui vient de la personne qui est jalouse, parce qu'il y a un méfait. Le méfait, c'est pour toi d'abord, et le méfait, c'est pour l'autre personne par rapport au haine, au mauvais œil, au mauvais regard, ainsi de suite. Donc, la jalousie, ça consume les bonnes œuvres. Attention, contrôlons nos pensées et nos cœurs, et rappelons-nous que tout bienfait vient d'Allah. Si mon frère il a une voiture plus grande que la mienne, ou s'il a une situation enviable que moi je n'ai pas, c'est que c'est Allah qui lui a donné. Tu vas reprocher, tafoullah. Tu vas reprocher à Allah que tu as été injuste, na'oudou billah. Tu lui as donné, tu ne m'as pas donné. Là, Allah est hakim et sage dans toutes ses décisions. Deuxième péché grave, on cite uniquement, et péché qui nous empêche de voir nos doigts acceptés, c'est consommer du haram. Consommer une nourriture qui n'est pas licite. Le prophète cite le cas de cette personne, ce voyageur, qui lève ses mains, qui demande, alors que normalement ses doigts sont acceptés, mais le prophète dit wa mal ta'amuhu haram. Mais ce qu'il consomme, c'est haram. Fa anna yustajabu li dhalik. Hadith de Muslim. Comment voulez-vous que ces doigts soient acceptés alors que ce qu'il mange, c'est haram? On doit faire très attention. Très attention à ce qu'on consomme. Et là, c'est un message qu'on essaie de faire passer à nos élèves, à la madrasa, faites attention, vous êtes les parents, à ce que vous donnez à manger à vos enfants. Tout ce qui est écrit halal n'est pas forcément halal. À mon humble avis, il n'y a pas plus grande arnaque à notre époque que l'arnaque du halal. Qu'une personne, un commerçant te vend un carton de poulet blanc, un carton qui est blanc, c'est juste écrit en arabe halal dessus, achi. Fais attention, ce n'est pas, c'est pas parce que c'est écrit halal. Halal, ce n'est pas une marque déposée. N'importe qui peut mettre halal sur n'importe quoi. D'accord? Donc on doit faire attention. Et quand on dit consommer nourriture halal, c'est le manger, la nourriture, mais c'est également les revenus. Les revenus. Il faut faire en sorte que nos revenus soient licites. Pas d'emprunt avec la banque. Pas d'intérêt, ainsi de suite. Tout ça, on doit être très clean. On doit faire très attention. Parce que ça empêche, c'est un obstacle à l'acceptation des doigts. Troisième péché grave. Qui nous empêche de voir nos actions acceptées par Allah. C'est la rupture des liens avec la famille. D'un côté, on a ce qu'on appelle sila. Sila, c'est renforcer un lien. Silatul Rahim, entretenir les liens avec la famille. Et qat'a, ça vient du verbe qat'a qui est coupé. C'est-à-dire que volontairement, intentionnellement, la personne a décidé de ne plus adresser la parole à son frère, à son tonton, à son neveu, à son cousin, à son beau-frère, et peu importe, les membres de la famille proches ou éloignés. Ça, c'est extrêmement grave, parce que le prophète dit qu'au-delà de 3 jours, les amals ne montent plus. Et d'autres hadiths qui stipulent que le lundi, le jeudi, les bonnes actions sont présentées à Allah, sauf les actions de la personne qui a rompu les liens. Ça, il faut faire extrêmement, extrêmement attention. Il ne faudrait pas que d'un côté, je fais beaucoup de bonnes choses, et de l'autre côté, à cause de ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on a rompu les liens? Ce n'est pas izzatun nafs, c'est la fierté, c'est l'orgueil. C'est que même si la personne a mal agi, on n'est pas prêt à aller vers la personne, tendre la main, dire écoute, on s'est un petit peu ramassé sur tel sujet, on s'est trompé, on a mal parlé, d'accord, bon, écoute, on essaie de, de mettre tout ça de côté, on essaie de régler les problèmes comme des adultes et on redémarre du bon pied. Combien de temps on va garder la haine ou entretenir ce mauvais état d'esprit? Pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'un jour c'est toi qui portes son kafan pour l'enterrer, ou un jour celui qui porte ton kafan. Connais l'histoire, enfin pas une histoire, mais le cas de deux frères, une personne un peu âgée, et ils sont toujours en désaccord, et ils ne s'adressent plus la parole. J'ai dit à une de ces personnes, mais ils sont âgés, donc c'est avec un peu de adab, de ihtiram, de respect. Il a dit que vous avez tel âge, près de 80 ans. Est-ce que c'est encore le moment de rompre les liens? Et ça veut dire que la prochaine fois que tu iras vers lui, ce sera quand tu vas le porter sur ton dos pour l'enterrer et que tu vas descendre dans sa tombe, ou que c'est lui qui va faire pour toi. Est-ce que c'est une vie réussie, ça? Qu'il faut être cohérent avec soi-même et réaliser que le muhabba qu'on a pour la famille, ça doit être un muhabba pour Allah. À partir du moment où tu as mis la sincérité au centre de la muhabba, tu vas plus regarder si la personne parle correctement ou parle, comme il dit, cause gras. Et dans toutes les familles, on aura toujours une personne qui parle, qui cause gras. On aura toujours une personne qui a des propos dérangeants. Dans un repas familial, il y aura toujours le tonton qui cause en plus. Il y aura toujours cette cas-là, cette tante qu'on a le petit commentaire que les destructeurs. C'est comme des petites mines antipersonnelles qu'elle pose là. Et quand tu manges, tu dis « prof ». C'est toujours cette même personne qui crée la fitna, qui crée des polémiques au sein de la famille et qui, on va dire, qui envenime les conversations. Dans toutes les familles, il y a au moins un comme ça. Mais même cette personne, ne tourne pas le dos à cette personne, réalise que malgré ses défauts, la personne a des qualités qu'Allah seul le sait. Mais malgré ça, c'est ton sang. Ça, c'est le sang, ça. Suratul Rahim, il demande à Allah d'accorder bénédiction à ceux qui gardent le lien et de détruire ceux qui le détruisent. Donc, je ne dois pas être cette personne qui, parce qu'il est fier de lui, ou on a un peu de fierté, et ainsi de suite, ou pour d'autres choses, on a décidé de rompre les liens, ça ce serait un péché, ce serait une erreur très grave, et avec énormément de conséquences qu'Allah nous protège. Quatrième et avant-dernier, parmi les actions qui sont extrêmement graves, et qui nous empêchent d'avancer, c'est la désobéissance envers les parents. Par exemple, il dit, « La jannata, aq'ul li walidayhi ». Celui qui a désobéi, qui a manqué de respect, qui n'est pas proche de ses parents, n'accède pas au Jannah. Et en commentaire, il dit que la personne risque de mourir avec su'ul khatima, une mauvaise mort, qu'Allah le protège. Donc, dans les relations avec les parents, on en a déjà parlé, n'oublions jamais que quel que soit l'âge des parents, quel que soit leur comportement, quelle que soit leur façon d'agir, qu'ils soient justes ou parfois injustes, parfois il y a des parents qui sont injustes, ça aussi ça existe, mais en finalité, ils ont toujours raison. On doit toujours leur donner raison, quelle que soit leur confession, qu'ils soient musulmans, qu'ils ne soient pas musulmans, il n'y a pas de différence. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa par contre, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Que s'il t'ordonne, le sens du verset, quelque chose de mal, si les parents qui ne sont pas musulmans te disent de faire tel un péché, par exemple, il dit, mon garçon, viens boire une coupe champagne avec moi, on boit une bière ensemble, on regarde de France-Pérou, d'accord, et devant une bonne bière, non. Mais garde un bon comportement. En dehors du haram, il faut que tu sois un fils ou une fille exemplaire. Ça, c'est l'ordre du Coran pour celui qui fait shirkun billah, le pire des péchés qui peut exister. C'est pour nous donner une idée, pour qu'on réalise comment est-ce que l'obéissance et la bienveillance envers les parents, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, pour notre réussite même de ce dunya et pour l'acceptation et la validation de nos œuvres auprès d'Allah, Azza wa Jal. Et on terminera avec la pire des choses qui provoquera des regrets éternels. C'est quand un croyant a jeûné, a fait le hajj, a fait umrah, a lu, je ne sais pas combien fait le Coran dans sa vie, le jour de Qiyamah devant le tribunal d'Allah, il est fier de toutes ses récompenses, mais des gens le rappellent. Dans ce monde, tu m'as insulté. Dans ce monde, tu m'as traité de... Tu m'as fait perdre mon travail. Tu as semé la zizanie entre moi et mon épouse. Tu as, ainsi de suite, tu as porté atteinte à mon honneur. Les gens vont faire la queue, comme vous allez acheter du fromage à Carrefour. Les gens vont faire la queue pour récupérer le haqq, récupérer leur droit. Les mava'alim. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et la personne, ça s'appelle le hadith al-muflis, celui qui est dépouillé de tout ce qu'il possédait, il va brader, il va donner son hajj, il va donner son umra, il va donner ses bonnes actions, parce qu'il doit compenser les gens à qui il a fait du. Donc faisons attention, tant dans nos paroles que dans notre façon d'agir, de ne jamais opprimer ni casser le cœur d'une personne, ni offenser quiconque, parce que les conséquences seront terribles le jour de Qiyama. Qu'Allah nous protège et nous préserve. Qu'Allah nous garde tous dans le droit chemin, nous permet de garder ces acquis, ces 6 points qu'on a cités du mois béni, et nous permet de rester ferme de nos a'mal saliha, priorité à notre salat en jama'a, le tahajjud, le jeûne, on va revenir, et le contrôle de tout ce qui nous mène vers le haram, le contrôle de façon générale face au péché. Et n'oublions pas l'action réservée à l'élite de le mois de Shawwal, c'est quoi? Les 6 Shawwal. Hadith qu'on avait un petit peu expliqué après Maghrib. Par exemple, on dit que celui qui a jeûné Ramadan, thumma atba'ahu sitta min Shawwal, kana ka siyami ad-dahr. Et ad-dahr, c'est toute l'année. Tu jeûnes 6 jours durant le mois de Shawwal, Allah t'accorde la récompense de toute l'année. Et c'est sans exagération, sans extrapoler. Si Allah te le promet, Allah te le donne. C'est-à-dire que c'est-à-dire pour l'année de 1439, sera inscrit 1439, 360 jours de jeûne. Parce que le prophète nous a annoncé qu'al hasanatu bi ashri amthaliha. Chaque bonne action multipliée par 10. Quand tu jeûnes 30 jours, Allah te donne la récompense de 300 jours. Et quand tu fais 6 jours de Shawwal, ça fait 60, ça fait l'équivalent de toute l'année lunaire qui est composée de 360 jours. Faisons partie de ces gens qui vont jeûner 6 jours. Il y a deux façons. La façon la plus sûre, c'est de les jeûner de façon consécutive. Et je pense que c'est la meilleure façon. De les jeûner immédiatement, 6 jours d'affilée, au moins Shaitan ne viendra pas nous embêter. Ou alors, si on n'a pas la possibilité, deuxième option, c'est de répartir 6 jeûnes dans le mois de Shawwal. Mais attention, bien regarder notre calendrier, parce que les jours vont passer très vite. Il ne faut pas que, comme on a dit après Maghrib, qu'il reste 4 jours avant la fin de Shawwal et qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas commencé. Ça veut dire que cette récompense-là n'est pas pour toi. Tu n'as pas été choisi pour ça. Faisons en sorte de faire l'effort. Si on peut faire les lundis, jeudis, pendant 3 semaines, ce n'est pas mal non plus. Mais il faut placer 6 jeûnes de Shawwal durant ce mois et avoir cet espoir de rétribution qu'Allah, dans sa grâce, par sa grâce, sa clémence, sa bonté, sa générosité, nous donne tawfiq de faire ces 6 Shawwal, qu'Allah agrée notre mois de Ramadan et nous permet d'avancer progressivement mais sûrement vers lui jusqu'à ce que nous retournions vers l'Yuma Tawfiq illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.